Bonsoir, je suis très heureuse de présenter mes dessins dans cette exposition. La vie sera mille fois plus belle, fruit de ma résidence de 3 mois à la Casa de Velázquez de Madrid, avec le soutien du département de Loire-Atlantique. Il s'agissait pour moi de m'immerger dans la révolution sociale espagnole de 1936, en me concentrant sur les femmes anarchistes, les Mujeres Libres, qui ont lutté à la fois pour revendiquer leurs droits de femmes et leur émancipation, et à la fois pour la révolution sociale, et dont le rôle sera déterminant dans la lutte révolutionnaire et antifranquiste sur le front et à l'arrière-front. J'ai donc mené un travail de dessin autour du combat oublié de ces femmes, en laissant une place centrale à l'imaginaire et à l'intuition, habitée par la mémoire de toutes celles qui ont tenté par le passé d'agir, de ces militantes convaincues de cette utopie révolutionnaire qui a animé leur combat quotidien et les a révélées peu à peu à elles-mêmes, mais aussi par l'indispensable nécessité de leur restituer leur place dans l'histoire et leur rôle fondateur. Que nos actes présents puissent alors se nourrir du passé et aussi nourrir les expériences à venir.
Bonjour, en fin d'année 2025, Anna Picot a présenté à l'Open School Gallery de l'École des Beaux-Arts de Nantes une série de dessins fruits de sa résidence à la Casa de Velázquez à Madrid. Anna Picot a intitulé son exposition « La vie sera mille fois plus belle », un titre qui résonne avec les Mujeres Libres, ces femmes libres qui ont inspiré son travail. Et pour ce numéro de Rien à voir, le magazine de la rédaction d'Alternante FM, nous vous proposons de découvrir l'univers de cet artiste libre en sa compagnie et celle de Patsy.
On resitue le projet ?
J'ai répondu à un appel à candidature du département de Loire-Atlantique pour une résidence de 3 mois à la Casa de Velázquez de Madrid, avec une bourse pour mener un projet de résidence en lien avec la péninsule ibérique. Donc moi, j'avais déjà un fort intérêt pour l'anarchisme, et notamment en Espagne. Et ce travail sur les Mujeres Libres, je le portais en moi depuis un moment. Et donc j'ai osé candidater avec ce projet, de travailler sur ces femmes qui, en 1936, au sein même du mouvement anarchiste, ont fondé un collectif féminin, les Mujeres Libres, et une revue éponyme pour défendre leurs droits, pour lutter contre le machisme au sein même du mouvement anarchiste. Et ces femmes se sont à la fois battues sur le front et ont été très présentes à l'arrière-front pendant la guerre d'Espagne et la révolution sociale.
Nous allons effectuer une visite en compagnie de Patsy, notre expert historien.
Oui, un expert avec une mémoire très friable, mais j'espère que les dessins d'Anna vont évoquer quelque chose et ça va me faire rajeunir de quelques années quand je m'intéressais beaucoup plus à l'Espagne qu'aujourd'hui.
Mais d'une manière générale, sur les femmes militantes espagnoles ?
Ah, espagnol. Écoute, Anna l'a dit, le machisme, c'était pas réservé aux réformistes ou aux réactionnaires. Le mouvement anarchiste, à la fois, il permettait l'expression de femmes révolutionnaires, mais après, il y a le discours, il y a les pratiques. Et les pratiques qui ont du mal souvent à suivre les discours, mais ça, tu le sais bien, Michel. Voilà. Donc, en effet, Mujeres Libres a marqué toute une génération de femmes pendant la guerre et après la guerre. C'est-à-dire que pendant les décennies ensuite, la question du machisme espagnol, y compris dans les rangs révolutionnaires, a été questionnée et des femmes ont pris la parole et ont continué à la prendre. Et pas seulement Federica Montseny, qui était une des figures centrales de l'anarchisme ibérique, mais d'autres femmes ont pris part au combat contre le franquisme après donc la victoire de Franco.
Avec un rayonnement international.
Bien sûr, parce que pour le mouvement anarchiste, au-delà des frontières, au-delà des Pyrénées, l'Espagne, c'est la dernière grande révolution du XXe siècle. On ne le savait pas encore, mais en fait, ça s'est avéré la dernière. Et c'est vrai que voir à la fois des hommes partir au front comme les communards d'avant, hein, parce qu'il y a eu ça, les communards en 1770, elles étaient sur les barricades, on les appelait les pétroleuses, on les appelait les femmes de petite vertu, évidemment. Ben là, en Espagne, en effet, elles ont pris part au combat, comme l'a dit Anna, à la fois sur le front, mais également à l'arrière, où il fallait faire tourner la machine industrielle pour, entre guillemets, achalander le front en pétoir, en munitions, etc. Donc ça a marqué de fait tout le mouvement anarchiste international. Hein. Voilà, on est dans les pas des Espagnols d'une certaine façon.
Mmh. Anna, ça apporte quoi d'être sur place à Madrid ?
C'était en plus la première fois que je faisais une résidence, donc que j'allais dessiner in situ. Et c'était fondamental d'être en Espagne, parce qu'au-delà de toute cette histoire politique extrêmement puissante, il y a tout ce qui émane de l'Espagne, et toute l'âme espagnole aussi, notamment dans son art, et notamment je pense à la figure de Goya, qui est une figure même dans l'art moderne, qui a aussi rompu avec la peinture d'histoire. C'est aussi les premiers dessins politiques aussi. Donc c'était pour moi fondamental d'être dans ce lieu, de vraiment de m'imprégner de la ville, de déambuler dans la ville. J'ai été aussi aux archives de la Fondation Anselmo Lorenzo, qui sont les archives de la CNT à Madrid, où j'ai pu rencontrer notamment un archiviste, Juan Cruz López, qui m'a donné à lire des exemplaires de la revue Mujeres Libres. J'ai pu accéder aussi à des photos d'archives. Et aussi, chose importante, j'ai rencontré une jeune militante anarchiste, syndiquée, assistante sociale, et qui était aussi pour moi porteuse de tout cet héritage. Donc c'était très fort pour moi de lier à la fois ce passé et ce présent de l'Espagne.
Et sur
la revue Mujeres Libres.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur son contenu ? À la fois la défense des grands idéaux de l'anarchisme, etc., mais aussi de la condition féminine, conditions de travail, les relations hommes-femmes, etc. Donc c'était l'anarchisme espagnol, c'est un anarchisme profondément ouvrier, populaire et paysan. C'est-à-dire que, alors certains sont des gros littérateurs, hein, ça fait des grandes phrases, mais il y a vraiment une volonté éducatrice fondamentale, très très forte. Donc on essayait d'écrire pour se faire comprendre des gens, et des gens qui n'avaient pas fréquenté l'école pendant longtemps, quoi. Voilà. Et donc Mujeres Libres, c'était un outil d'éducation populaire et d'émancipation.
Donc on est dans les années 30.
36, ouais.
C'est avant un petit peu.
Comment dire ? L'Espagne vit une situation politique conflictuelle des années 20 aux années 30. Et en 36, il y a le coup d'État de Franco, une riposte qui est à la fois démocratique, républicaine, mais aussi anarchiste, notamment en Catalogne, où les anarchistes vont, entre guillemets, se rendre maîtres de la Catalogne, vont reprendre les usines. En Aragon, ils vont reprendre l'agriculture, hein, les fermes, etc., avec une volonté d'autogestion et de contestation du pouvoir en place, ou plutôt d'accommodement avec le pouvoir en place. Ils ne cherchent pas à renverser le gouvernement républicain, même s'ils sont omniprésents en Catalogne. Voilà. Et Franco, lui, va pouvoir s'appuyer sur les vieilles élites, et puis sur un certain nombre de territoires qu'il va conquérir très très vite, avec une extrême brutalité aussi. Hein. Parce que ce qui marque dans la Révolution espagnole, ou la guerre d'Espagne, parce que ça dépend des regards qu'on porte, comment on nomme l'événement, c'est son extrême brutalité. C'est un historien qui s'appelait Preston, qui a fait un livre là-dessus. Ça veut dire que ça massacre à tout va, des deux côtés, mais surtout du côté franquiste, mais des deux côtés aussi. Ça veut dire à quel point les tensions sociales et les frustrations sociales étaient fortes. L'Espagne, c'était un univers quasi concentrationnaire pour les classes populaires, quoi. Répression politique, répression antisyndicale, mainmise des élites sur les masses paysannes, etc., etc. Et la révolution, c'est une explosion aussi. On se libère de décennies d'oppression. Et moi, j'avais une question pour Anna, parce que je me dis, quand tu arrives à Madrid, tu t'installes, tu racontes ton projet, est-ce que les Espagnols t'ont pas dit « Mais arrêtez de nous embêter avec cette histoire de guerre d'Espagne, ça fait presque un siècle, on en a marre, que cette identité-là nous colle à la peau, alors que l'Espagne, ça peut être bien autre chose. » Est-ce que tu as eu ce discours ? Parce qu'il y a toujours le conflit mémoriel, hein, aujourd'hui, sur la guerre d'Espagne. Certains vont dire « Il faut équilibrer, il y a des torts des deux côtés, etc. » tout ça. Et une partie de la jeunesse espagnole n'a plus envie trop de parler de cette affaire-là. Est-ce que tu as été confronté à ce type de discours ?
Non. Mes interlocuteurs, c'était vraiment des anarchistes. Donc, ils accueillaient à bras ouverts de pouvoir parler de cette histoire. Et j'étais très étonnée aussi que beaucoup de jeunes Espagnols ne connaissent pas cette histoire. Et ce qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est que dans la ville, tu traverses toutes les ruines du franquisme. À Madrid, tu as un arc géant avec un aigle, enfin, sous le métro. Les gens passent dessous, il y a encore tous les vestiges de toute cette architecture, et c'est très particulier. J'avais la sensation qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé dans cette histoire, mais j'en ai pas vraiment échangé avec d'autres Espagnols.
L'objet de cet échange et de notre rencontre, c'est aussi la découverte de cette exposition. Comment tu l'as organisée ? Est-ce qu'il y a une intelligence du parcours ?
Alors non, déjà j'ai été épaulée par de nombreuses personnes qui m'ont aidée durant l'accrochage. Alors après, les dessins, ils sont assez denses. Donc le lieu, il était vraiment très appropriée pour avoir une respiration et pouvoir avoir une visibilité, notamment liée au grand format et notamment aux dessins qui sont quand même assez chargés. Donc on a tous ensemble, moi j'ai pris aussi les avis de toutes les personnes qui m'ont aidée dans un bel esprit de camaraderie. Non mais c'est vrai, c'était très chouette ce montage et c'était super de voir ces dessins que j'avais directement emmenés d'Espagne, de Madrid, qui sont grands et que j'avais pas redéroulés depuis décembre 2024, de pouvoir les appréhender en grand, de pouvoir les voir vivre.
Au niveau dimension, c'est 1,50 m sur 2, 3 m sur 3.
C'est des très grands dessins, ils font à peu près entre 2,30 m par 1,60 m. Certains font 2,50 m. Certains sont plus petits, mais on est au minimum à 1,50
m. C'est compliqué de dessiner quand on fait des œuvres plus grandes que soi?
Bah non, alors ça c'est une question un peu idiote, mais non. Au contraire, moi justement, mon geste, j'ai besoin de le déployer sur du grand format et notamment le fait que je dessine avec mes mains et que je dessine de manière assez... Il y a un rapport assez charnel au papier, à la toile. Donc il y a une façon de déployer le geste qui est idéale pour moi.
Vous êtes en promo, donc on n'insulte pas la personne qui pose des questions.
Pardon,
on ne dit pas une question idiote.
Pardon, monsieur.
Anna, tu dis mes dessins sont un peu chargés. Alors forcément, on est à la radio. Alors qu'est-ce que ça veut dire un dessin chargé? Tu évoques quoi? C'est y a trop de personnages, il y a plein de personnages, ou c'est la technique plutôt utilisée qui fait que le dessin te semble, entre guillemets, chargé?
Alors déjà, c'est vrai qu'il y a un rapport au fusain très charbonneux, très dans le noir et blanc, mais il y a aussi dans le... Peut-être dans la charge émotionnelle des dessins. Ça peut sembler idiot, mais il y a un vrai contrat avec moi-même d'authenticité quand je dessine. Donc j'y mets vraiment quelque chose de sincère et en retour, ou même certains regardeurs, ça peut déranger. Il n'y a pas de sens d'exposition.
Il y a un sens à l'exposition.
Oui, l'exposition, elle a...
Un sens.
Elle a un sens.
Mais pas ce sens-là.
Il n'y a pas un sens...
Directionnel.
Non, j'impose pas qu'il faut aller par là, puis par là.
Alors, ce que je propose, c'est au hasard, Patsy, tu te diriges vers un des dessins, et puis on va prolonger notre échange.
Celui-ci, ce n'est pas du tout pour sa qualité, il serait plus exceptionnel que les autres, ce n'est pas la question, mais ça me permet de poser une question à Anna.
Alors, on va le décrire d'abord.
Oui, c'est tout simplement une milicienne avec un calot. Il n'y a pas d'indication sur le calot, donc on ne sait pas si elle est à la CNT, donc le syndicat anarcho-syndicaliste, ou à l'UGT, qui était le syndicat socialiste, mais un socialisme quand même plutôt radical. Mais ce que je voulais savoir, Anna, ce dessin-là, j'ai l'impression de l'avoir vu déjà en photo. Tu vois. Est-ce que tu es parti de photos, de l'iconographie, ou est-ce que tout ça part de ton imagination?
Alors je complète, c'est une femme militante, point levé, fermé, et qui tient dans sa main gauche un fusil.
Alors déjà, donc celui-ci, étonnamment, enfin non pas étonnamment, c'est peut-être le plus documentaire des dessins. Donc il part d'une petite archive, alors après je m'en détache très rapidement. L'idée, c'est pas de dessiner que la photo à côté. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué et de ce que j'avais pu lire, c'est que dans la photographie, justement au sein même de la photographie de ces femmes miliciennes, il y avait une mythification de la femme, une érotisation de la femme avec l'arme dans le vêtement, qui derrière cachait en fait des femmes que les communistes ont, vers la fin du conflit, ont ramenées direct à l'arrière-front. Donc pour moi, il y avait cette idée de renverser cette mythification, notamment dans son visage. Donc là, après, c'est un visage que j'invente. Et justement, de pouvoir faire naître, même dans ce visage, ce doute, l'enfance, à la fois une forme de radicalité. Mais voilà, il y avait aussi l'idée de renverser ce cliché qu'on a pu renvoyer de la femme soldate espagnole. Dans mon processus de création, il y a l'archive qui est importante. Par moment, je vais prendre un détail de l'archive, mais l'idée pour moi, c'est de faire table rase à un moment et d'inventer. Et ce qui m'intéresse, parce que je ne fais pas œuvre d'historienne, et c'est comment, même par la fiction, par le dessin, par la narration, on peut aussi prendre en charge cette histoire, ces trous de la mémoire aussi. Voilà, comment ça peut, dans l'invention aussi, rendre compte de ça.
Là, il y a un dessin, on voit une femme qui prend dans ses bras son enfant, et là, on ne voit pas les visages. Alors, certains dessins, les visages apparaissent, sur d'autres, ils disparaissent, mais volontairement. C'est-à-dire que le geste de l'artiste fait qu'on ne peut pas les dévisager véritablement. Pourquoi? Et c'est quoi ton choix?
Ça fait partie aussi des obsessions récurrentes dans mon travail de dessin. Mais il y a aussi quelque chose d'une part quand je dessine qui m'échappe et que je tiens à conserver. Donc il y a aussi, pour moi, dans le dessin et dans ma pratique, et même dans ce qui me porte, des dimensions fantastiques et un peu surréelles que j'aime énormément. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette question du visage. Alors il y avait aussi cette mémoire qui s'efface aussi, qui était en regard de cette histoire. Mais il y a aussi quelque chose au moment du dessin, d'intuitif, qui s'improvise et que je laisse faire sans pour autant moi-même me donner une raison.
Tu n'intellectualises pas tout.
Non, exactement. Et ça me semble très important. Alors j'intellectualise avant parce que j'ai besoin de lire et j'ai besoin d'être portée, mais aussi j'ai besoin de faire table rase de ça aussi. Et comment moi, avec mon univers et ce que j'amène, comment aussi je me réapproprie cette histoire.
Un petit commentaire sur le brassard.
Ah ben justement, je vois SI.
C'est le sigle en français de Solidarité Internationale Antifasciste, une branche de la CNT, du mouvement libertaire. Et c'était aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'en avais parlé en Espagne, c'était aussi une manière, un peu dans une concurrence avec les communistes aussi, d'avoir créé ce front antifasciste. Et donc c'était une fondation à vocation humanitaire et politique anarchiste.
Qui concurrençait le Secours Rouge.
Exactement.
Voilà, lié au mouvement communiste.
C'est ça.
Il y a un autre dessin. Il y a une femme, a priori, un enfant ou un adolescent qui travaille. Et ça, c'est important parce que, en fait, il y a eu un grand débat. Est-ce qu'il faut faire la révolution ou gagner la guerre d'abord? Et gagner la guerre d'abord, c'était produire des armes pour permettre au front de progresser et de repousser les fascistes. Cette dimension-là, elle me rappelle, moi, les tentatives autogestionnaires, le fait que les grands patrons disparaissent complètement de la Catalogne, par exemple, et qu'il faut, pour les ouvriers, pour les syndicalistes, souvent dans l'unité, UGT et CNT étaient unis souvent pour gérer directement ces entreprises. Et cette dimension, l'autogestion, ça t'a beaucoup inspiré pour ce travail?
Pour compléter, donc, c'est un enfant ou un ado blessé. La tête.
Oui, l'autogestion, ça m'a beaucoup intéressée. Et notamment, alors là, ce n'est pas l'objet de ce dessin, mais notamment qu'en Espagne, ce n'est pas le cas dans ce dessin, mais que ça partait aussi l'anarchisme à la fois de lutte paysanne et de lutte ouvrière. Ce que j'ai trouvé, qu'il n'y avait pas de scission. Après, j'ai complètement réinventé, je suis partie de l'idée de cette machine et des femmes qui travaillaient aussi à l'arrière-front. C'est un dessin aussi, pareil, très intuitif. Et il y avait aussi cette question de cette femme dans l'usine, un peu cette ambiguïté si elle répare ou non l'enfant. Enfin voilà. Et puis il y a ce truc de l'œil aussi, qui est récurrent. Au bout de la machine, il y a comme un œil aussi, je m'en suis aperçue.
Anna Picot et Patsy sont les invités de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, pour un numéro spécial consacré à l'exposition « La vie sera mille fois plus belle », soutenue par le département de Loire-Atlantique. Dessin, mémoire, engagement, figure féminine, une œuvre à la fois intime et politique.
Il y a deux dessins qui m'intriguent. Ils se font face. J'ai l'impression que c'est des autoportraits. On peut les décrire. C'est une enfant qui tient à la main un chevalier sur son cheval. Hein, c'est une figurine. Ah, c'est Don Quichotte. Je ne l'ai pas mis lunettes. Et puis, en face, c'est le seul dessin d'ailleurs qui est en couleur. C'est de la peinture bleue. Et on trouve cette gamine qui se prend pour Don Quichotte et qui peut-être un rapport avec toi au niveau de la forme du visage. Non?
Alors, c'est pareil, ça ne doit pas être conscientisé. Mais par rapport à la figure de l'enfance, qui est assez récurrente dans mon travail, un peu comme... comme le champ de tous les possibles et aussi comme le fondement d'une utopie révolutionnaire. Et j'ai été très marquée, notamment dans les archives, par tous ces enfants dans les rues qui rejouaient la révolution, qui créaient des petites barricades, qui se réappropriaient aussi cette histoire. Et la figure de Don Quichotte, je l'ai beaucoup lue et j'en ai parlé, qui est une symbolique forte pour les anarchistes. C'est vraiment une figure de l'utopie. Mais il y avait cet aspect de l'enfance qui est vraiment très fort pour moi. Après, l'autoportrait n'est pas conscientisé, mais voilà.
C'est intéressant le regard que peut avoir un spectateur sur les dessins.
C'est ça qui m'intéresse, et notamment dans la création. C'est non pas moi le statut d'avoir créé ces dessins, mais d'avoir créé des choses qui après ne m'appartiennent plus. Et certaines rencontres se créent pour certaines personnes avec des dessins et non pas avec moi. Et c'est ça que je trouve ça très fort. C'est que voilà, ça m'échappe. Et c'est ça qui est riche.
Sur les cartons d'invitation pour le vernissage, vous avez choisi ce dessin-là qui représente...
Oui, qui représente quatre petites filles, quatre jeunes filles. D'ailleurs, dans les photos d'archives, on voyait beaucoup de garçons qui rejouaient cette révolution. Et donc, volontairement, j'ai pris des petites filles en mécanicienne, qui tiennent les armes, qui sont à la fois aussi ces corps de métier qui ont été fondamentaux et primordiaux durant la Révolution sociale.
L'infirmière.
Une mécanicienne, il y a un costume aussi de l'enfance, mais qui tient le fusil. Il y a aussi le Bermuda, qui aussi est quelque chose du garçon. Mais là, où j'en ai fait une petite fille, avec le calot, voilà, il y avait quelque chose de frontal. Et il y a quelque chose, aujourd'hui, pour moi c'est important de le dire, c'est parmi ce monde ultra numérisé, que peut l'image aujourd'hui et que peut le dessin? Que peuvent aussi les symboles, comme ce fameux point levé révolutionnaire? Qu'est-ce qui peut appeler en nous quand on le regarde? Qu'est-ce qui réveille en nous? Est-ce que l'image, est-ce que ces dessins, ils peuvent quelque chose encore?
Et là, tu as anticipé la remarque sur le précédent dessin de Patsy. C'est 4x2 à représenter, donc tu as masqué les visages.
Non, t'es pas obligé de répondre.
Alors, on parle toujours des visages masqués, mais c'est aussi quelque chose de récurrent dans mon travail. Mais il y avait aussi les pastilles, même sur les photos ratées, qu'on met aussi dans les archives sur des visages. Mais il y a aussi ces femmes qui sont un peu des oubliées de l'histoire aussi. Il y a quelque chose de l'anonymat.
Il y a combien de dessins? Il y en a une vingtaine, c'est ça à peu près?
Il y en a 13, je crois.
Sur aucun, en fait, j'ai l'impression que personne ne sourit. Et là, je suis en face de celui-ci. C'est une jeune fille qui est assise à côté... peut-être du fantôme de sa mère, je sais pas, elle a l'air, voilà. Et elle ne sourit pas sur les autres dessins non plus. Quand les visages sont visibles, entre guillemets, c'est plutôt la tristesse qui ressort. Alors est-ce que la révolution et la tristesse ont un destin lié?
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors je pense qu'il y a toujours une part de mélancolie qui accompagne mon travail. Mais il y a aussi cette mélancolie qui est propre aux révolutions sociales. Mais en même temps, il y a aussi ce rendez-vous avec le présent. Et il y a aussi ce qu'on appelle les étincelles révolutionnaires. Alors après, je sais pas. Pourtant, il y a de la joie, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est flagrant dans mon travail.
Ça prend combien de temps pour en dessiner un grand format?
Alors là, j'ai pas de règles, mais la plupart de ces dessins ont été faits à Madrid. Le temps de m'installer, j'ai eu un peu moins de 3 mois pour les faire. Donc pour moi, il faut que ça aille vite. Je sais pas passer du temps sur les dessins, et c'est aussi ce truc un peu qui jaillit. Je veux aussi qu'ils ressortent dans le dessin. Donc il y a quelque chose de très impatient quand je dessine. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc ça dépend des dessins. Il y en a qui ont pu prendre 3 heures, d'autres un peu moins d'une semaine. Mais je passe jamais un temps très long sur un dessin.
Cette résidence, c'est aussi un lieu de rencontre avec d'autres artistes. Comment ça s'est passé pour témoigner de ton séjour?
Écoute, ça s'est bien passé. Mais moi, enfin, ce qui a été le cœur de ma résidence, c'est que la Casa de Velázquez, j'avais un atelier, j'avais une chambre, mais pour moi, tout l'intérêt était de sortir dans la ville et de pas rester dans l'institution. Donc j'allais tout le temps aux archives, j'allais tout le temps au Prado. Ce qui a été très important et quelque chose que j'ai peu fait en France, mais en Espagne et à Madrid, et ça, ça a été même important pour moi, je marchais seule la nuit dans la ville, parce qu'il y a une vie permanente. Et ça a été riche de toutes ces expériences. Mais peut-être ce qui a nourri le plus mon dessin aussi, c'est la mémoire de ces femmes qui hantaient aussi la ville. Parce que quand même, les Mujeres Libres, le premier groupe a été fondé à Madrid. Et notamment la cofondatrice, c'est Lucia Sánchez Aornil, qui était une poétesse et une militante anarchiste, dont le nom est peu reconnu, mais qui a été très importante. Notamment, il y a une photo très célèbre où Emma Goldman vient rencontrer les Mujeres Libres, où elle marche avec elle dans les rues de Madrid. Elle a elle-même écrit justement pour soutenir le mouvement. Voilà, j'ai été surtout portée par la mémoire, parce qu'il y a quand même un truc magique avec l'Espagne. Il y a quelque chose d'une puissance à la fois chez les gens, même de ces anarchistes que j'ai pu rencontrer. Alors, comme j'ai rencontré que des anarchistes, j'avais l'impression que tout le monde était anarchiste et que la CNT était encore un syndicat extrêmement puissant. À Madrid, en fait, c'est pas vraiment le cas, mais comme je croisais que des gens syndiqués à la CNT. Mais voilà, ça a été ces rencontres, et peut-être que j'ai fantasmé des choses, mais ça a nourri tout mon imaginaire.
Ce tableau qui m'intrigue, tu parlais de mémoire, on voit une femme qui tient un drapeau. Moi, j'ai l'impression que c'est Delacroix, revisité, la liberté guidant le peuple. Mais au lieu qu'elle soit entourée par Gavroche et d'autres révolutionnaires, là, on a l'impression qu'elle est dans la campagne, dans la fougère et dans les plantes.
Voilà, on est vraiment dans le maquis, notamment dans la campagne espagnole. Avec les combattants, il y a toute cette végétation très aride, très sèche. Alors, j'ai pas pensé à Delacroix, mais je voulais que cette femme soit à la fois le porte-étendard de cette révolution sociale. Et notamment, il y avait quelque chose aussi dans son visage que je voulais pas représenter dans une féminité un peu stéréotypée, mais dans une puissance qui est autre, qui dépasse l'enveloppe charnelle, qui avait autre chose et qu'elle, elle porte ce drapeau noir, mais qu'elle est là et qu'elle émerge de tout ça.
Deux regards extérieurs.
Je découvre, donc
c'est trop tôt.
Donc un petit peu, ouais, faut digérer un peu l'information. Enfin c'est très intéressant. On sent qu'il y a un univers créatif qui est vivace, qui est nourri aussi de recherches, justement d'images d'archives, etc. Là, je vous entends un petit peu parler. Là, j'explore un petit peu, mais bon, parler de tout ça sur le vif, c'est pas évident. Je découvre, il y a des tableaux qui me plaisent. Moi, j'aime beaucoup celui-là, ouais. Avec le bleu.
Le bleu, ouais.
Ouais. C'est très frappant. Mais après, bon, c'est très émotionnel. La petite fille sur son cheval. Tout de suite, on rentre dans une symbolique, un univers. Ça m'a happé, en fait, hein, dès que je suis rentré dans les galeries.
Noé, vous êtes assis sur une chaise à l'entrée de l'exposition pour accueillir le public. Vous pouvez nous indiquer votre ressenti sur l'exposition et puis peut-être sur l'ambiance et peut-être les retours qu'ont pu faire les visiteurs, les visiteuses.
Bah, du coup, l'exposition, moi, j'y ai participé depuis sa genèse. J'ai participé à l'accrochage. Donc ça, déjà, c'était intéressant d'aborder les œuvres différemment de mes habitudes de juste... spectateur. Là, j'ai pu toucher, j'ai pu comprendre aussi les enjeux d'une exposition, de qu'est-ce que c'est vraiment de mettre une œuvre sur un mur et mettre une lumière dessus.
Si vous avez compris, il faut me dire ce que vous avez compris.
Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'était un jeu intéressant. Ça me permet un peu de désacraliser l'artiste. Là où toute ma vie, j'ai vu des expositions qui mettent en valeur l'artiste, ses peintures, ces choses-là, et qui créent aussi un peu un pont entre l'artiste et le spectateur. Comme si tout était choisi, là, ce que j'ai aimé, c'est aussi, comme elle l'a dit, l'esprit de camaraderie, où tous les avis comptaient, même des gens qui n'avaient pas fait les œuvres, qui même les avaient jamais vues et tout ça. Et c'est ça que je veux dire par enjeu d'accrochage, c'est que ça s'avère être quelque chose de plutôt relax. Ensuite, il y avait la plus grosse partie, c'était la médiation. C'est assez intéressant de voir, ne serait-ce qu'en fonction des âges, comment les gens consomment une œuvre. Et les questions qui reviennent aussi beaucoup.
Par exemple ?
Il y a la question des visages et des yeux. Ça, je crois que vous en avez parlé. Je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur dans de l'art figuratif. La question du regard aussi que l'œuvre pose sur nous. Et là, d'avoir des visages qui peuvent être complètement effacés, ou des yeux qui ressortent sur des visages complètement absents, ça intéresse beaucoup les gens. Sinon, les questions qui sont beaucoup revenues, c'est aussi sur la technique. Ça intéresse les gens. Parce que j'ai entendu que vous avez beaucoup parlé du poids historique qui se cache derrière les œuvres, mais ce qui intéresse aussi beaucoup, c'est qu'est-ce que c'est le fusain ? Comment on fait le fusain ? Qu'est-ce que c'est que ce blanc au milieu de tout ce noir du fusain ? Est-ce que c'est de la gomme ? Est-ce que c'est effacé ? Est-ce qu'il n'y a même pas de fusain dessus ? Tout ça. Donc ça aussi, c'était intéressant de dialoguer avec les gens autour de ça.
Et qu'est-ce que le fusain ?
Le fusain, je dirais que c'est un médium très gestuel. De ce que disait Anna, de faire des grands formats. Je pense que le fusain, ça nécessite beaucoup de grands formats parce que, comme j'ai dit, c'est gestuel et ça passe beaucoup par la main, le toucher, le fait de draper avec sa propre main. Ça amène aussi inévitablement à se poser la question du contraste. Comme c'est très facile d'atteindre des aplats noirs très sombres, comment est-ce qu'on met aussi en valeur de la lumière quand on n'a que l'ombre avec laquelle dessiner ?
Et juste ma dernière question, est-ce que c'est l'endroit idéal pour lire le culte du banal ? Là, vous l'avez sous les yeux.
Ouais. Je pense que oui, parce que ça parle d'œuvres, ça parle d'accrochage, ça parle de musées, de choses comme ça. Je pense que c'est l'endroit adéquat, parce que c'est le lieu pour. Les galeries, c'est un bon lieu pour y lire des choses sur l'art. Après, je me suis pas encore permis de mettre en relation ce que j'apprends dans ce livre et ce que je vois face à moi. Mais ouais.
Merci à Anna Picot, à Patsy et à
Jérôme
Noé
pour leur libre participation à ce numéro de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, enregistré à l'Open School Galerie de l'École des Beaux-Arts de Nantes. Vous l'aurez compris, l'exposition « La vie sera mille fois plus belle » n'est désormais plus visible, mais son écho, lui, continue de circuler.
Bonne nouvelle, donc je n'avais plus d'atelier, mais je suis très heureuse parce que je suis lauréate du prix des arts visuels de la ville de Nantes cette année. On est 4 lauréats. Dans ce cadre-là, je bénéficie pendant 2 ans d'un atelier d'artiste que je partagerai, une bourse de production et une exposition dans le cadre du voyage à Nantes avec les 3 autres lauréats à l'atelier en 2027. C'est une très bonne nouvelle et ça va me permettre... de poursuivre toutes mes expérimentations dessinées. Notamment, je voudrais travailler aussi l'animation en dessin. Je voudrais aussi appréhender la couleur, continuer le fusain, travailler sur d'autres supports comme le bois. Enfin voilà, ça va me donner une respiration pour pouvoir poursuivre aussi ma création.
Quel sera ton sujet d'inspiration ?
Pas dévoilé encore.
Si, un scoop pour le terme.
Non, non. Bah, de toute façon, il y a toujours ce fil de l'anarchisme et des luttes qui nourrit tout mon imaginaire, mais se mélange aussi des choses aussi liées à l'enfance. Enfin, voilà, je vous en dirai plus tard.